Auditeurs, auditrices.
Aujourd'hui, émission en direct depuis le lycée horticole de Blois.
Avec la classe de TCVA.
Au programme La vie au lycée, littérature et l'environnement.
Écoutez-nous sur le 91.1.
Bonjour à vous, auditrices, auditeurs. Nous sommes Aline Larose
et Noah Sanson,
vos animateurs radio pour cette superbe matinée. Nous vous retrouvons aujourd'hui sur Studio Zef, la radio du moment. Nous sommes en direct avec les élèves de première TCVA sur le plateau radio du lycée horticole qui, entre micro-trottoirs, interviews et chroniques, vont vous présenter leurs idées sur les trois grandes thématiques de cette journée du développement durable. Spécifique au lycée depuis 4 ans, où les jeunes sont sensibilisés à la biodiversité et en général à l'économie, l'environnement, la société et la culture. Avec le changement climatique, cette journée s'est répandue afin de conscientiser les citoyens.
Et pour notre premier micro-trottoir, nous écoutons Manon, Élise et Léane qui vont nous parler d'un sujet particulier qui s'impose dans la première thématique. La vie au lycée, qui s'intitule « Le lycée horticole de Blois est-il connu ?»
Bonjour, nous sommes des élèves du lycée horticole de Blois, en classe de première TCVA, technicien conseil en vente animalier. Nous sommes Élise, Manon et Léane.
Pour reprendre ce que les représentateurs disaient, nous avons questionné des passants dans le centre-ville de Blois et la fameuse question était « Connaissez-vous le lycée horticole de Blois ?»
Alors moi je m'appelle Élise, ça serait pour vous poser des questions si vous connaissez le lycée horticole.
Est-ce que du coup vous connaissez le lycée horticole de Blois ?
Pas du tout.
Oui, bonjour, je m'appelle Anne-Laurence et j'ai 55 ans. Je connais de nom, mais je ne sais pas où il est.
Non, je ne connais pas du tout le lycée horticole de Blois, parce que je suis originaire de la Mayenne. Voilà. Autrement, je m'appelle Chantal et j'ai 64 ans. Voilà.
J'ai 63 ans et je m'appelle Marie-Christine. Alors, je le connais parce que je passe assez souvent devant. Et ensuite, parce que j'ai un ami qui est fleuriste et qui a travaillé pour le lycée horticole.
D'accord. Et vous avez des retours sur le lycée ou...
Ah non. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas du tout.
Oui. Moi, j'ai fait une formation de paysage à Blois. Et du coup, je connais... Enfin, je connais pas très bien, mais je le connais de nom. Quoi. Je m'appelle Charlotte et j'ai 23 ans.
Non, pas du tout. Je m'appelle Sylvane et j'ai 15 ans.
Alors, je m'appelle Manon et j'ai 17 ans.
D'accord. Est-ce que vous connaissez le lycée horticole de Blois ?
Seulement de nom.
D'accord. Personne de votre entourage était là avant ?
Non.
Pas du tout.
Véronique et j'ai 65 ans.
D'accord. Et là, je m'appelle Eva et j'ai 17 ans. Vous le connaissez comment, le lycée horticole de Blois ?
Il était pas très loin de mon collège.
Alors, je m'appelle Marinette et je viens d'avoir 67 ans.
Du coup, est-ce que vous connaissez le lycée horticole de Blois ?
Non, je ne connais pas le lycée horticole. Donc ça va jusqu'au bac ?
Oui.
Il n'y a pas au-delà du bac, à bac plus 2
Non.
Bonjour, alors je m'appelle Claire et j'ai 20 ans. Je l'ai entendu de nom, mais avant que vous m'interviewiez, je ne connaissais pas non plus.
Donc, il y a TCVA, technicien conseil vente animalier, TCVUJ, technicien conseil vente univers jardinerie, horticole relatif à la culture des jardins de l'horticulture, CAP fleuriste, CPH, technicien en conseil de production horticole.
D'accord, bah, c'est très intéressant.
Effectivement.
Merci beaucoup, puis bah, bonne journée.
Merci.
Nous avons interviewé M. Roux, qui est le directeur de trois établissements, d'où le lycée horticole de Blois, le lycée agricole de Montoire et le lycée agricole de Vendôme.
Bonjour M. Roux, nous allons vous poser quelques questions sur notre projet radio du lycée. Alors, première question, connaissez-vous la date de création du lycée horticole de Blois ?
Oui, tout à fait. Alors, originellement, la première école d'agriculture sur Blois, c'est en 1928. Et après, il y a eu plusieurs évolutions. C'est une école où on apprenait aux filles, à l'époque, mais c'était il y a bien longtemps, à faire un travail de future femme d'agriculteur et on apprenait aux jeunes garçons d'être cultivateurs. Alors tout ça, ça a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. Et le lycée agricole tel que vous le connaissez aujourd'hui a été créé en 1992. À l'endroit où vous êtes, où vous faites vos études aujourd'hui.
Parlez-nous un peu plus de l'EPL et combien il y a d'élèves et les filières.
Alors écoutez, au niveau des filières, donc on est sur un EPL alors, qui est constitué de trois sites avec un éventail de formations, que ce soit par la voie de l'apprentissage, la voie initiale scolaire ou la voie de formation pour adultes. Un éventail de formation qui est très large. Donc on est actuellement, il y a trois lycées de formation initiale scolaire. Lycée, donc le lycée de Vendôme, le lycée de Horticole de Blois et le lycée professionnel de Montoire. Il y a un établissement de formation initiale par la voie de l'apprentissage et qui est réparti sur les trois sites que je viens de vous dire. Un établissement de formation professionnelle qui est réparti aussi sur les trois sites que je viens de dire. On est alors sur le PL, il y a actuellement 172 élèves en lycée sur Blois avec 144 apprentis. Ensuite, sur Vendôme, on est sur 421 élèves et une quinzaine d'apprentis. Donc on est aux environs de 450 apprenants sur le site de Vendôme. Et sur le site de Montoire, on a 131 élèves et 115 apprentis.
D'accord.
Donc on est sur un EPL, ce qu'on appelle l'agro-campus des deux vallées qui réunit les trois sites. On est à peu près aux environs de 800 élèves, quoi. Voilà. Avec des statuts différents, apprentis, lycéens, collégiens, et puis ou adultes.
Avant d'être directeur dans ces établissements, puisque vous êtes arrivé en septembre 2023, vous connaissiez ces trois lycées ?
Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais revenir à votre question parce que j'ai pas répondu entièrement à ce que vous me proposiez sur les filières. Donc, on va dire que sur Blois, on est plutôt sur des filières de fleuristes, de techniciens vente en animalerie ou en jardinerie. On est sur du bac pro et on est aussi sur de la production horticole. Voilà, pour faire rapide. Sur Montoire, on va être sur tous les métiers qui préparent à l'agriculture, de la quatrième à la terminale. Mmh. Et sur Vendôme, on va avoir un éventail des formations qui va aller de la seconde générale en passant par les secondes professionnelles. Toutes les formations et toutes les formations qui sont liées à l'agriculture, à l'environnement ou aux sciences. Et alors, je connaissais ces lycées aussi par rapport à une histoire. Et puis, c'est vrai que le PL Agro Campus des Deux-Vallées est un des plus gros EPL.
Alors, avant-dernière question.
Je vous en prie.
Pourquoi avez-vous choisi la direction du lycée agricole ?
Eh ben, écoute, j'étais enseignant pendant plus de 20 ans dans différents lycées agricoles. Et... un jour, j'ai choisi de m'engager. Alors, c'est suite à des diminutions d'effectifs, des fermetures de classes. J'ai choisi de m'engager en tant que directeur pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice avec les équipes. Je ne considère le métier de directeur que lorsqu'on travaille en équipe. Et j'avais, de par mes racines, on va dire, agricoles, en Limousin, j'avais déjà une appétence pour former les jeunes au monde de l'agriculture.
Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre parcours professionnel avec votre accord, si vous voulez bien ?
Je vous en prie. Alors, mon parcours professionnel est très simple. J'ai eu un bac en 1984. C'est un bac économie, comme on disait à l'époque. Ensuite, j'ai fait des études d'histoire, histoire de l'art, archéologie. Et en parallèle, je faisais une école de peinture qui s'appelle les Beaux-Arts, tout ça en région parisienne. Après, en 1992, à l'occasion d'une fouille archéologique, j'ai eu l'occasion de rencontrer un enseignant avec ses élèves sur un chantier de fouille archéologique à Brie-Comte-Robert exactement, qui m'ont dit, il y a un poste, c'est un pur hasard, qui m'ont dit, il y a un poste de professeur d'histoire qui se libère sur Brie-Comte-Robert. Jusque-là, j'étais donc enseignant à la faculté de Créteil. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans l'enseignement agricole que je ne connaissais pas. Mmh. Ensuite, j'ai passé un concours en interne pour être titulaire. Et j'étais enseignant d'histoire géo à partir de 1995 au lycée agricole de Brie-Comte-Robert. Ensuite, je te passe toutes les étapes. Donc jusqu'en 2007, j'ai été enseignant d'histoire géo sur plusieurs lycées. Le lycée de Brie-Comte-Robert, le lycée de Neuvic en Corrèze. Et puis, depuis 2007, je suis directeur. Donc, j'ai travaillé en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie, et là, je suis en région Centre-Val-de-Loire.
D'accord.
Voilà.
Bah, merci bien, en tout cas, monsieur.
Au revoir, bonne journée à vous.
Alors, nous remercions monsieur Roux pour nous avoir accordé du temps.
Merci les filles pour votre intervention, et merci d'avoir interviewé notre directeur des trois lycées.
Pour continuer dans cette thématique, faisons place à Ethan, Maxence et Sacha pour la présentation de notre filière, la formation technicien conseil vente animalerie. Bonjour à vous trois, nous vous laissons la parole.
Bonjour, nous sommes Maxence,
Ethan
et Sacha,
élèves au lycée horticole de Blois. Plusieurs filières existent comme les TCVUJ, les horticoles ou encore nous, les TCVA.
La filière TCVA comporte les matières de base comme les maths ou le français. Mais en rapport avec la vente, mais dans notre filière, nous avons des cours de vente où nous apprenons toutes les techniques
de vente. Et faisons des sketchs de vente où on nous enseigne comment s'occuper des animaux sur notre animalerie. Nous avons quatre secteurs comme le secteur mammifères avec des lapins ou des hamsters, le secteur aquariophilie, le secteur oiseaux ou encore le secteur reptiles.
Notre semaine contient environ 7 heures d'animalerie par semaine. De temps en temps, des intervenants viennent, comme il y a quelques semaines, une soigneuse d'animaux nous a appris les premiers gestes de secours. Nous avons même obtenu un diplôme.
La filière comprend aussi des périodes de stage rémunérées depuis septembre 2023. Les périodes sont constituées de 3 à 4 semaines différemment payées selon les classes de seconde, première et de terminale. Les périodes seront utilisées pour réaliser un dossier de stage de 20 pages qui compte pour une épreuve d'examen. Lors de cette période de stage, nous réalisons des activités telles que l'entretien des locaux et des cages, les commandes, les réceptions et bien sûr la vente. Les qualités pour être vendeur est d'être très calme pour faire face à d'éventuels clients parfois compliqués.
Mais nous en saurons plus sur les débouchés avec Sofiane, Gabriel et Adelin.
Revenons sur vos paroles, vous ne nous avez pas parlé de vos ressentis, que pensez-vous de cette formation ?
En venant ici, j'ai appris ce qu'était le métier de vendeur. Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est plus complexe que ça en a l'air, mais j'ai vraiment beaucoup aimé.
Merci à vous trois pour votre chronique. On ne vous la présente plus, cette chanson internationale, elle date de 2012, elle nous a fait danser, elle nous a fait vibrer. Tout de suite, I Love It de Icona Pop feat. Charlie XCX.
Passons maintenant à Aurore et Nathanaël qui vont nous exposer la vie à l'internat par une chronique. Vous voulez savoir ce qui se passe dans nos couloirs ? Restez avec nous, ils vont vous dévoiler tous nos secrets.
Dis Aurore, tu te souviens de ta première nuit à l'internat ?
Avant d'arriver à l'internat, j'ai paniqué. J'étais pas rassurée de dormir avec des inconnus dans la même pièce. Mais une fois à l'internat, le matin, pour la première fois, j'ai rencontré mes colocataires. J'étais la première arrivée. Puis mes autres colocataires sont arrivés. Il y a eu un grand silence entre nous. Et nos parents ont discuté entre eux. Et toi, c'était comment, ton arrivée ?
Moi, j'avais déjà fait une année d'internat dans un autre lycée. Donc, quand je suis arrivé, j'étais moins stressé, juste un peu inquiet du type de personne avec qui j'allais être. Puis après, je me suis dit que j'étais trop loin pour faire le trajet tous les jours.
N'empêche, ça doit être compliqué de caser tout le monde, entre un tel qui s'aime pas, mais bidule qui veut être ici, etc.
C'est vrai que ça doit être compliqué. Moi-même, je peux avoir du mal avec certaines personnes. Je félicite les surveillantes de réussir à trouver toutes les places pour tout le monde. Tu as des choses qui te manquent à l'internat ?
Oui, mes chats, des fois. Et ma télé aussi. Et toi ?
Moi, mes animaux me manquent aussi. Mais sinon, ça va, je suis habituée maintenant. Qu'est-ce que tu penses des règles et du déroulement de l'internat ?
Je trouve ça un peu militaire, quand même. 7 heures debout, 7h45 en bas, 18h sans téléphone, 19h repas, 20h dans les chambres, 22h éteintion des feux.
Oui, c'est un peu militaire, effectivement. D'ailleurs, ça te gêne pas qu'ils prennent nos téléphones, toi ?
Si, parce que quand on n'a pas de devoirs, on s'ennuie, mais on finit par s'y habituer. Et puis l'internat devient un peu comme une deuxième maison à force.
C'est vrai.
Au fait, c'est quoi la zone de dating ? Je suis jamais allée.
Elle sert à se regrouper entre filles et garçons dans un lieu en dehors des chambres. Il y a des canapés, des fauteuils, une table et une petite bibliothèque.
Ça a l'air sympa, j'irai voir. Je ramènerai quelque chose comme moi aussi.
Mais les surveillants sont d'accord que tu aies de la nourriture dans ta chambre ?
Oh, tu sais, je suis pas la seule. Et ils savent qu'on en a tant qu'on n'en abuse pas. En plus, ils sont contents quand on en leur donne. Et puis c'est le premier à dire pas vu, pas pris.
En tout cas, ils sont vachement souples comme surveillants. On peut s'amuser quand on veut, quand on fait rien d'interdit.
Allez, viens, faut qu'on monte, c'est l'heure de monter à l'internat.
Merci, grâce à vous, nous en savons donc plus sur les coulisses de l'internat.
Et pour notre second micro-trottoir, accueillons Lucie, Maë et Ambre pour la présentation de la crise d'adolescence, une étape à surmonter aussi bien pour les ados que pour les parents.
Bonjour, est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà embrouillé avec vos parents ? Si on vous pose la question, c'est que ça nous est déjà arrivé. Mais rassurez-vous, rien de grave ni d'irrémédiable. D'ailleurs, c'est normal, ça s'appelle la crise d'adolescence.
Nous allons donc vous parler de cette crise que beaucoup de jeunes ont vécue. Nous avons demandé à plusieurs lycéens du lycée horticole de Blois s'ils avaient vécu leur crise d'adolescence et comment est-ce qu'ils la définissent.
Bonjour, comment t'appelles-tu et en quelle classe es-tu ?
Bonjour, je m'appelle Marc, Kenny François, je suis en première TCVUJ.
Est-ce que tu as eu des appréhensions en arrivant au lycée ?
Ouais, je venais d'un déménagement, j'étais pas serein à l'idée de changer d'environnement, mais au final ça s'est bien passé.
Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence ? Si oui, tu l'estimerais pendant combien de temps ?
Je pense avoir vécu ma crise d'adolescence, bon, je la trouve plutôt courte, un an et demi environ.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris durant ton adolescence ?
Qu'on finit toujours solo, même si on est bien entouré, qu'on a des amis, on finit toujours très très seul.
Quel cliché as-tu déjà entendu le plus sur les adolescents ?
Qui font rien de leur vie, qui passent leur temps à jouer, qui font rien quoi.
Quel est celui qui t'énerve le plus en cliché ?
Celui même, ils disent qu'on fait rien de nos journées, qu'on est là, on glandouille, alors que pas du tout. Hein. On fait des choses, on prépare nos avenirs en tout cas pour certains, même si on s'amuse de temps en temps, mais quand même, voilà quoi.
C'est quoi pour toi une crise d'ado ?
Pour moi, une crise d'adolescence, c'est au moment où genre tu découvres un peu le monde, tu commences à avoir ta vision sur le monde et tu vois qu'elle commence à pas être en accord avec celle de tes parents. Par exemple, tu penses que tu veux sortir parce que tu t'estimes pas capable de sortir. Là, tes parents sont interdits, ils sont pas d'accord. C'est à ce moment-là que tu peux dire ouais, bon, j'ai pas la même vision que mes parents. Et à force de grandir, tu vas commencer à t'aligner à leur vision et tout. C'est ce qui fait que ça s'arrête, quoi, je trouve.
Bonjour, comment t'appelles-tu et en quelle classe es-tu ?
Je m'appelle Le Grand Maxence et je suis en terme TCVA.
Est-ce que tu as eu des appréhensions en arrivant au lycée ?
Bah ouais, parce que j'étais stressé parce que je connaissais personne et je savais pas trop le fonctionnement du lycée.
Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence ?
Bah oui, depuis quelques années déjà je pense.
Tu l'estimerais pendant combien de temps ?
Allez, peut-être 12-13 ans à 15 ans je pense, ouais.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris durant ton adolescence ?
Bah déjà, j'ai gagné en maturité, j'apprends la vie d'adulte, on va dire, parce qu'on y rentre bientôt.
Quel cliché as-tu déjà entendu le plus sur les adolescents ?
Bah qu'on était fainéants, qu'on voulait rien foutre, bon même si ça peut être un peu vrai ça, mais oui, le plus souvent c'est qu'on est fainéants et qu'on veut pas bosser. Pour moi... De mon vécu, c'est plus on se rebelle ou on veut en faire qu'à sa tête, on veut commencer à faire des choses par soi-même, apprendre à évoluer peut-être, ouais, à se développer par soi-même, des choses comme ça.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Léa Daridan et je suis en terme TCVA. Quand je suis arrivée en seconde dans ce lycée, je ne connaissais pas ce lieu. Enfin, du coup, ça me stressait un peu. J'angoissais un peu sur le fait que je ne trouve pas d'amis. Mais au final, tout s'est bien passé. Et puis là, tout se passe bien. Les études, ça roule.
Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence ?
Je ne sais pas, peut-être pendant un ou deux mois.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris durant ton adolescence ?
Qu'il fallait que je passe un peu moins de temps sur mon téléphone et que je passe un peu plus de temps avec mes amis, ma famille. La vie, c'est super important, les études, c'est important, la famille, c'est important.
Quel cliché as-tu déjà entendu le plus sur les adolescents ?
Les téléphones. Lâchez votre téléphone, rangez ci, rangez ça.
C'est quoi pour toi une crise d'adolescence ?
Il y a le comportement aussi qui joue, tu peux changer de comportement. Il y a plein de trucs qui fait que tu grandis, qui peut changer ta vie, enfin je sais pas.
Bonjour, je m'appelle Laurent Elsa, je suis en terminale TCVA.
Est-ce que tu as eu des appréhensions en arrivant au lycée ?
Oui, parce que je connaissais personne et surtout je savais pas qui était dans ma classe.
Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence ?
Oui, on l'a tous vécu.
Tu l'estimerais pendant combien de temps ta crise d'adolescence ?
Depuis mes 13 ans.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris durant ton adolescence ?
Que faut pas faire confiance aux gens et que des fois faut laisser un peu faut être mature quoi.
Quel cliché as-tu déjà entendu le plus sur les adolescents ?
Que notre génération était pourrie quoi, c'était une génération un peu aléatoire quoi.
Quel cliché t'énerve le plus ?
Ça justement, ce que je viens de dire.
C'est quoi pour toi une crise d'adolescence ?
Une crise d'adolescence, c'est quelque chose qu'on vit depuis nos 13 ans justement et que ça nous suit jusqu'à notre vie tout ça. Mais je pense que c'est des fois c'est positif, des fois c'est négatif.
Bonjour, comment t'appelles-tu et en quelle classe es-tu ?
Bonjour, moi c'est Mathieu Poirot et je suis en terminale TCVA.
Est-ce que tu as eu des appréhensions en arrivant au lycée ?
Un peu d'être tout seul, mais du coup, au final, j'avais deux camarades de mon collège avec qui je parlais pas, mais du coup, avec qui je parle beaucoup maintenant.
Est-ce que tu penses que tu as vécu ta crise d'adolescence ?
Je pense. Il y a une période où j'étais chiant, surtout avec mes parents, mais du coup, je pense que je l'ai eu.
Tu l'estimerais pendant combien de temps, ta crise d'adolescence ?
Deux mois, je pense. Un ou deux mois. C'était c'est chiant. Je répondais souvent à mes parents, trucs comme ça.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris durant ton adolescence ?
Un peu la vie adulte, parce que du coup, on passe de la vie d'enfant à la vie d'adulte. La crise, ça fait un peu connaître ça. Et aussi, pendant la crise, on peut répondre aux parents et tout. Après, on se dit, on devient un peu plus mature.
Quel cliché as-tu déjà entendu le plus sur les adolescents ?
Qu'on est des gamins et qu'on respecte un peu rien. C'est un peu le cliché des adolescents, je pense.
Quel cliché t'énerve le plus ?
Surtout les adolescents qu'on... Par exemple, on va pas laisser des adolescents entrer dans le magasin seul. Ils ont toujours peur qu'on vole, trucs comme ça. La dégradation et le vol.
C'est quoi pour toi une crise d'adolescence ?
C'est quand tu passes de l'enfant à l'ado, l'ado au jeune adulte, c'est la transition, je pense, un truc comme ça, et pour devenir un peu plus mature, et c'est là où tu pètes un peu plus les câbles.
En conclusion, nous avons vu que beaucoup de lycéens ont la même définition sur la crise d'adolescence. Ils pensent presque tous la même chose, qu'il y a beaucoup de changements d'humeur, surtout avec les parents. Nous les remercions d'avoir répondu à toutes nos questions.
Nous vous remercions pour votre implication sur ce passage de l'adolescence et pour nous avoir proposé ce micro-trottoir.
Retrouvons tout de suite un nouveau groupe pour parler du ressenti des élèves de notre lycée. Gabriel, Adelin et Sofiane sont partis à la rencontre de nos lycéens. Bonjour à vous trois, laissons-leur la parole.
Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter un micro-trottoir. Nous avons posé à plusieurs élèves une simple question. Quels sont les points forts et les points faibles du lycée ? Quels sont les points positifs et les points négatifs du lycée ?
Les points positifs du lycée, les enseignants sont très à l'écoute des élèves si jamais ils ont un problème. Enfin, certains, il y en a, mais bon, je ne vais pas dire les noms. Mais ouais, ça c'est un point positif et négatif à la fois parce que ça dépend vraiment des enseignants en fait.
Alors, point positif, ils font beaucoup de sorties. Ils nous apprennent d'autres choses un petit peu que l'horticulture, ce qui peut être utile parce qu'il y en a qui changent de voie. Après, dans les points négatifs, je pense que le budget il baisse, donc il y a beaucoup de serres en mauvais état. Aussi, ils pourraient peut-être investir un peu plus dans des trucs plus sympas qu'un golf.
Le point positif, c'est que c'est vraiment que de la nature, il y a la voiture du vivant avant tout, et c'est vraiment que de l'écologie pure, et on essaie de renouveler ça au maximum. Par contre, en point négatif, c'est que c'est assez loin du centre-ville, et du coup, il faut plus de transport.
Les points positifs, moi je dirais qu'on est là pour former les futurs agriculteurs ou en tout cas ceux qui vont travailler avec la nature. On a plein de jeunes volontaires qui sont là, qui sont présents, qui ont envie de s'engager et qui s'engagent au quotidien. Ça fait vraiment plaisir de voir une jeunesse épanouie.
En point fort au niveau des cours, c'est que quand on a des difficultés, les profs sont là pour nous aider, ils nous expliquent bien et tout ça. Après, en point faible... Souvent, les pauses du midi, elles sont petites. On n'a pas trop le temps de manger.
Je vais parler de l'internat pour les points positifs. Déjà, c'est bien parce que c'est des chambres de 4, donc on peut être avec des personnes qu'on connaît ou faire des connaissances, ou des chambres de 2. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi nos salles de bain personnelles et que ce n'est pas commun, donc on n'est pas obligé de faire la queue pour aller prendre notre douche ou pour aller se brosser les dents. Et après, les points faibles, c'est que à 18h, on a une étude sans téléphone, donc pour regarder devoir, c'est soit avant, soit on a un agenda. Et après, c'est l'extinction des feux à 22h. Donc, c'est cool pour d'autres et pas cool pour d'autres parce qu'ils veulent se coucher plus tard.
En point positif, on sent vraiment bien dans le lycée. Et en point négatif, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose pour s'asseoir dehors.
Positif, produits locaux, je vous présente. Point négatif, les places de parking.
Les points positifs, c'est que l'internat, il est agréable. Et les études obligatoires, c'est cool pour travailler tranquille. Les points faibles, c'est que le Wi-Fi, on doit se connecter toutes les heures.
Alors déjà, les points forts, c'est que les profs sont beaucoup à l'écoute. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ils sont là pour nous aider, pour qu'on réussisse notre année. Et les points faibles, c'est les ordinateurs qui sont très longs à s'allumer et le Wi-Fi qui bug un peu.
En point fort, je dirais qu'on a un bon internat, des professeurs à l'écoute et on est assez libre pendant les temps de pause. On peut aller dehors ou se promener un peu dans l'établissement.
Je suis venu dans le lycée pour apprendre l'horticulture, le maraîchage, et je suis pas déçu parce qu'on apprend bien.
Merci d'avoir écouté notre micro-trottoir. Nous allons maintenant accueillir Adriana, qui est une ancienne élève du lycée horticole, et nous allons lui poser quelques questions. Bonjour Adriana.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans cette filière ?
Moi, ce qui m'a donné envie de venir dans cette filière, c'est vraiment le côté commercial avec la filière animalière pour pouvoir continuer dans le commerce.
Quelles étaient tes attentes en venant au lycée ?
Mes attentes, c'était de pouvoir gérer dans le niveau du commerce, pouvoir me débrouiller toute seule dans n'importe quel magasin.
Okay. Est-ce que dès la première année, tu t'es sentie que c'était ta voie ?
Oui, après c'était le commerce vraiment niveau animalerie qui m'a plu, donc oui, c'était vraiment ma voie. Okay.
Pour toi, quels sont les points forts et les points faibles du lycée ?
Les points forts, c'est comme c'est un peu le petit lycée, tout le monde se connaît, tous les professeurs peuvent aider certains élèves. Les points faibles, je dirais que c'est quand même un assez vieux bâtiment et ça serait le seul point faible.
As-tu préféré les cours ou les stages ?
Pour moi, les stages étaient plus enrichissants que les cours, malgré le fait que j'apprécie quand même les cours.
Si tu pouvais dire une seule chose à une première année, que lui dirais-tu ?
Je lui dirais qu'il faut vraiment profiter de ces années de lycée et que la formation va apprendre beaucoup, que ce soit d'un côté animalier, d'un côté horticulture, que ça apprend plein de choses sur le quotidien et qu'il faut vraiment s'éclater dans la filière.
On vous remercie Adriana d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci également aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Merci à vous trois, nous avons donc encore quelques petites choses à améliorer. Et merci à Adriana pour ton intervention.
Clôturons notre première thématique avec cette dernière chronique de Lana, Maëlys et Kenza sur le harcèlement. Sujet compliqué autant pour les jeunes que pour les adultes. Découvrons-la ensemble.
Bonjour, nous sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui et nous vous présenterons donc le sujet du harcèlement, plus particulièrement au lycée.
Mais déjà, c'est quoi le harcèlement ? Eh bien, c'est une répétition de propos, de comportements, ou bien les deux, ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie du harcelé, autrement dit la victime.
D'après UNICEF, un jeune sur deux se dit victime de harcèlement dès l'âge de 7 ans et un adolescent sur 4 à 18 ans.
Et comment les lycées horticoles agissent pour lutter contre le harcèlement ?
Nous allons vous laisser avec une interview de Monsieur Faure, conseiller principal d'éducation au lycée horticole.
Qu'est-ce que le harcèlement et par quoi cela passe-t-il ?
Le harcèlement, c'est dans la vie réelle, hein, je ne parle pas de la vie numérique, c'est l'addition de micro-violences qu'on fait subir à un individu par une même personne ou un même groupe de personnes. Micro-violences, elles sont parfois physiques, parfois verbales, parfois morales. Ça peut être aussi les phénomènes d'exclusion, le fait de mettre de côté quelqu'un, de se moquer de lui, une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Voilà, ça c'est du harcèlement. Après, il existe aussi le harcèlement numérique. Et là, en fait, dès lors qu'on est victime une fois d'une violence, d'une insulte numérique, c'est considéré comme du cyberharcèlement par la loi.
Surveillez-vous toujours le harceleur après la sanction ?
Ben, le surveiller, c'est une chose, mais il faut aussi l'accompagner, je crois. Une personne qui a été harcelée peut devenir harceleuse. C'est des phénomènes qu'on observe parfois, un jeune, qu'on découvre harceleur dans un établissement scolaire, on se rend compte qu'antérieurement, à un plus jeune âge, dans un autre établissement, il a été lui-même harcelé. Donc c'est des mécaniques de fonctionnement. Et je pense que c'est important de permettre à un individu qui se montre lui-même violent, ce qui signifie qu'il y a une forme de mal-être et de manque de confiance en soi, avoir besoin d'écraser l'autre, de faire du mal à l'autre pour exister soi-même, ce n'est pas signe d'une très bonne santé mentale. On va dire. Donc il est important, avec la famille et le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, parce que les harceleurs, ce n'est pas que des jeunes, hein, de réussir à accompagner cette personne dans une meilleure prise de confiance en soi, sans passer par le regard des autres. C'est-à-dire qu'un harceleur, c'est quelqu'un qui ne va pas bien non plus. Il fait du mal, mais il ne va pas bien non plus.
Y a-t-il déjà eu des tentatives ou des suicides au lycée dus au harcèlement ?
Pas que je sache, mais il y a eu des situations de harcèlement, oui, l'an dernier. Il y a eu des situations de harcèlement. Voilà. Mais ça produit quand même des dommages très, très, très importants. En effet, tu parlais de suicide, on peut parler de scarification, de mal-être, de dépression, parfois de phobie sociale, manque de confiance en soi, à un âge, quand on est ado, où on se construit par le social, dans la relation à l'autre. Quand autour de soi, à l'école, notamment, puisque c'est votre métier, c'est le métier des ados, et ben, on a un environnement qui est toxique, difficile. Et puis pour la victime, le harceleur, sans dire qu'il a un sixième sens, mais la plupart du temps prend assez peu de risques. C'est pas un grand courageux, le harceleur. C'est quelqu'un qui va repérer, on ne sait pas trop comment, mais qui va repérer celui ou celle qui va faire preuve d'un peu de vulnérabilité, qui ne va pas forcément réagir. Au premier coup, s'il n'y a pas de réaction, il y en aura un deuxième et un troisième. Ce qui est important, c'est comment on se positionne soi-même face à de l'animosité en face de soi, dans un groupe, quel qu'il soit, pour éviter qu'une situation de conflit se dégrade en situation de harcèlement. Donc il faut apprendre aussi à se positionner.
Comment les AED peuvent-ils intervenir ?
Ben, ce sont sans doute les plus proches des élèves, les AED. En fait, ils sont là dès qu'il n'y a pas de prof. Ils sont là 24-24. Donc leur observation, leur regard est extrêmement important. La qualité relationnelle qu'ils tissent avec les jeunes est extrêmement importante. Ce qui est important, c'est de rassembler les petits bouts de violence, donc croiser les regards. Ce qui est important, finalement, c'est de s'appuyer sur les AED, mais aussi sur les personnels de région, les femmes de ménage, les personnels de service, de restauration, qui voient, eux, les élèves qui viennent se mettre dans des endroits, se cacher, qui entendent. On ne fait pas attention à eux, mais eux font très attention à leur environnement, je pense, au personnel de service. Et donc, ils voient des choses que personne d'autre ne voit. Puis les profs, évidemment. Donc, c'est la conjugaison de ces regards-là qui permet d'avoir une vue d'ensemble du puzzle social d'une classe ou d'un établissement. Parce que ça ne se joue jamais quand l'adulte est là. Ça se joue souvent un peu dans son dos, ou de manière très fugace. Donc c'est comment on est très vigilant par rapport à l'évolution d'un état moral d'un jeune aussi. Et là, les AED sont primordiaux, parce qu'ils voient, ils sentent, ils parlent. Celui qui est bavard qui devient silencieux, celui qui est silencieux qui devient hystérique. C'est les évolutions du mood, comme on dit.
Selon vous, comment pourrait-on faciliter la prise de parole chez les harcelés ?
La confiance, elle se fonde à la fois sur la qualité relationnelle, les qualités relationnelles qui vont se tisser dans l'établissement, c'est-à-dire entre les AED, l'équipe vie scolaire et les jeunes, la confiance, entre l'équipe enseignante et les jeunes, l'équipe, sanitaire, donc l'infirmière, le CPE, et ça passe aussi par l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'adulte ne se défile pas, mais il y va avec délicatesse. C'est-à-dire qu'un harcelé, la plupart du temps, a peur des conséquences du fait de parler. Il faut le rassurer sur cette question-là. Il ne faut pas y aller comme un bourrin ou une bourrine. C'est bien, petit à petit, de mettre en place une stratégie qui corresponde à l'état de santé, d'être du jeune et de l'amener petit à petit à évoluer. Il faut agir vite, mais pas n'importe comment et surtout pas précipitamment.
Notre dernière question, depuis combien de temps le lycée fait-il attention au harcèlement ?
Ben moi je suis là depuis 16 ans, donc je ne peux pas parler de avant. En tout cas, moi, il n'y a pas une année où ce n'est pas des choses qui sont importantes. Ce sont des sujets qui sont abordés chaque année. Après, le harcèlement, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est malheureusement très ancien et je ne pense pas que l'école découvre le phénomène aujourd'hui. Peut-être qu'en revanche, c'est davantage médiatisé. C'est un peu comme MeToo, en fait. On en parle. Et dès lors qu'on en parle, les pouvoirs publics prennent la mesure de la gravité de la situation. Enfin, la situation était très, très grave il y a bien longtemps. Et des suicides pour ces questions de harcèlement existent depuis assez longtemps aussi. Des gens brisés, ça existe depuis assez longtemps. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est tout l'appareil juridique et judiciaire qui est proposé, qui est mis en place pour prendre au sérieux ces questions-là, qui ne sont pas que des questions de conflit non plus. Voilà. Le truc, c'est que dans la société moderne, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, il y a de plus en plus de médias qui nous éloignent du social et de l'empathie. Donc c'est important que l'école s'empare de la question de l'empathie, de l'émotion, du vivre ensemble et du social. Et je crois que ça, c'est une des clés de voûte de la relation citoyenne. Donc sans doute que l'un des points d'entrée pour lutter contre le harcèlement, c'est déjà lutter pour le vivre ensemble.
Merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à toutes ces questions.
Et merci à vous, c'est chouette comme sujet. C'est pas un sujet, c'est un sujet épineux, mais c'est un sujet important. Voilà, c'est un sujet important. Merci à vous.
Et peut-on aider l'harcelé dans cette situation ?
Il y a de grandes chances pour qu'il garde des séquelles, mais il est possible de l'accompagner avec un suivi psychologique et des ateliers libres à l'écoute, tels que les AED, qui peuvent d'ailleurs être formés pour déceler et désamorcer des situations de harcèlement.
De plus, il a été installé dans le lycée des cours de travaux pratiques permettant aux élèves de créer des affiches ou des écrits sur la sensibilisation au harcèlement. Une activité créative et éducative permettant tout de même de pouvoir s'exprimer plus facilement si un harcèlement actuel a lieu sur cette personne ou des connaissances de celle-ci, avec discrétion et prise en charge de l'élève pour approfondir l'importance du harcèlement.
En ce qui est des parents de celui-ci, avec l'accord du harcelé, ils peuvent être prévenus par le lycée, sinon il existe un risque que l'élève se fasse du mal. Par la suite, le lycée se verra dans l'obligation de prévenir les parents, avec comme sans l'accord de l'élève, pour éviter tout danger et pouvoir en parler directement à la maison et favoriser la participation des parents lors de cette situation délicate pour l'élève.
Il existe 5 cas de harcèlement. Il peut être moral, physique, sexuel, de la discrimination ou bien sur les réseaux sociaux, appelé le cyberharcèlement.
Avec l'importance qu'a pris les réseaux sociaux chez les jeunes, le cyberharcèlement a pris une grande ampleur. D'après Audirep, le cyberharcèlement a déjà touché 24% des familles en France en 2023 auprès de 1200 binômes, parents-enfants âgés de 8 à 18 ans, contrairement à 2021 qui en touchait déjà 20%.
Le lycée, dans ce genre de cas, agit en discrétion pour l'élève et fait une enquête interne, puis le signale auprès de la protection de l'enfance s'il est estimé nécessaire, puis une prise en compte du point de vue de tous les élèves est prévu pour déterminer exactement qui se place en victime ou harceleur et voir l'importance des conséquences que vont être accordées au harceleur et en déduire des sanctions plus ou moins conséquentes.
Le lycée est très impliqué sur le sujet du harcèlement et sensibilise au préalable les élèves pour éviter d'avoir à imposer des sanctions qui peuvent être évitées par un simple respect mutuel et une parole plus libre.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci les filles pour cet échange très intéressant.
Retrouvons-nous après Fragile, une musique d'un artiste sensible au harcèlement. Il nous en parle avec de la douceur et des mots forts, Soprano.
Si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh.
On vit l'époque du virtuel. Des tutos pour du rimmel, Snapchat, Snapchat. Dis-moi qui est la plus belle pour elle. Être aimée, c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et commet l'irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Oh, 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 oh.
Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Oh, 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 oh.
Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Oh, oh, oh.
Avant de parler littérature avec les élèves, nous allons en savoir plus avec une personne d'expérience, Madame Daprato, professeure de français au lycée Horticol.
Bonjour, bonjour madame, pouvez-vous bonjour. Nous parler du projet littérature de première ?
Bien, tout d'abord, merci pour votre invitation.
De rien.
Depuis 2019, donc, j'inscris les classes de première à un dispositif en littérature qui s'appelle Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'aujourd'hui. Qui est financée par l'agence, une agence régionale culturelle cyclique en région Centre-Val de Loire. Et donc ce dispositif permet l'étude de trois œuvres contemporaines, donc sur trois genres littéraires différents, le roman, la poésie et la bande dessinée. Voilà. Donc cette année, vous avez eu accès en fait à trois ouvrages. La bande dessinée Marathon de Nicolas Debon, le recueil de poésie de Fanny Chiarello, La geste permanente de Jean Ticoeur, et un roman, La mélancolie du monde sauvage de Katrina Calda. Alors, c'est la BD, elle est offerte par Cyclique, voilà, l'agence Cyclique. Et les deux ouvrages sont à la charge du lycée. En fait, le financement se fait via un dispositif 100% région, un dossier qu'on monte, un dossier financier qu'on monte auprès de la région. Donc, c'est pas seulement des ouvrages qui sont offerts aux élèves et qu'on étudie, c'est aussi à la clé une rencontre avec, avec un des auteurs. Donc bientôt, vous allez rencontrer Nicolas Debon, qui est quand même une pointure dans le monde, dans l'univers de la bande dessinée. Les élèves, donc vos collègues de première hors titre CVUJ, ont rencontré Fanny Chiarello il y a quelque temps. L'année dernière, on a reçu par exemple Inès Leroux pour son magnifique ouvrage « Algues vertes ». Voilà, donc je me félicite de la participation à ce projet chaque année. Parce que c'est quand même des moments, voilà, c'est pas seulement l'étude d'une œuvre, c'est aussi rencontrer son auteur, pouvoir discuter avec lui de la création de cette œuvre, du propos aussi de l'œuvre, et puis éventuellement avoir un petit moment dédicace avec l'auteur, ce qui est toujours un petit plus pour les élèves. Mmh. Voilà.
Bah, merci pour votre intervention.
Merci à vous.
Et puis bah, bonne journée.
Également.
Pour notre deuxième thématique, la littérature, accueillons Léna dans une chronique sur la bande dessinée Marathon de Nicolas Debon, étudiée par notre classe de première TCVA. Bonjour Léna, parle-nous de cette œuvre.
Bonjour à tous. Plongeons-nous dans l'univers de la bande dessinée avec Marathon, une œuvre captivante signée Nicolas Debon. Nicolas Debon, c'est un talentueux auteur et illustrateur français qui nous offre avec Marathon un récit historique poignant qui nous transporte aux Pays-Bas. Inspiré par la véritable histoire de Bouguera El Wafi, ayant couru le marathon d'Amsterdam de 1928 sur une distance de 42 km et 195 mètres lors des Jeux Olympiques. Je vous propose donc une chronique radio sur la bande dessinée Marathon de Nicolas Debon, une bande dessinée aux nombreuses péripéties.
Adapté de l'histoire vraie de Bouguera El Wafi, écrit par Nicolas Debon.
Chers auditeurs, nous sommes en direct d'Amsterdam pour les 9e Olympiades modernes. Sur l'épreuve la plus redoutée, celle qui manipule le dépassement de soi, le marathon.
42,195 km d'une course folle. La bande dessinée Marathon a été publiée le 22 septembre 2021. Une bande dessinée de 120 pages sur le marathon lors des Jeux Olympiques de 1928.
Sur la ligne de départ du marathon, Bouguera El Wafi porte le dossard 61. Il est loin d'être le favori.
Il va surprendre le public, les journalistes et ses concurrents. Il s'est fait connaître lors des Jeux Olympiques de 1928 en remportant la médaille d'or dans l'épreuve du marathon. Avec cette bande dessinée, nous sommes plongés au centre de cette course mythique.
La foule l'acclame. Seul athlète français médaillé à Amsterdam, Bouguera El Wafi s'est imposé le 5 août 1928 comme un des plus grands champions olympiques de sa discipline.
Bouguera El Wafi a écrit une des plus belles pages sportives françaises. Marathon par Nicolas Debon aux éditions d'Argo. À travers un style graphique unique, mêlant traits épurés et couleurs vibrantes, Nicolas Debon donne vie à cette période fascinante de l'histoire. Son talent pour capturer les émotions et les paysages nous transporte littéralement dans le passé, nous permettant de ressentir l'effort, la peur et la détermination du coureur tout au long de son périple. Nicolas Debon est un artiste polyvalent qui a exploré différents genres et styles au fil de sa carrière. Parmi ses autres œuvres notables, on peut citer « Le chemin des montagnes », une bande dessinée qui retrace le voyage d'un jeune garçon à travers les Alpes. Ce qui caractérise le travail de Nicolas Debon, c'est son engagement envers l'histoire et son talent pour raconter des récits poignants et universels à travers ses illustrations. Que ce soit à travers les pages de Marathon ou de ses autres œuvres, l'auteur parvient à captiver son public et à susciter la réflexion sur les grands événements et les personnages qui ont marqué l'histoire. Une lecture incontournable pour les amateurs d'histoire, les passionnés de bande dessinée et tous ceux qui apprécient les récits intemporels de courage et de détermination. Et à travers les pages de Marathon, rappelons-nous que l'esprit olympique sera à l'honneur lors des prochains Jeux à Paris le 26 juillet, un rendez-vous unique pour écrire de nouvelles pages d'histoire dans le grand livre du sport.
Merci à toi Léna.
Pour continuer dans la littérature, le duo de Chloé et Léonie nous propose un micro-trottoir sur la littérature d'aujourd'hui. Saluons-les et laissons-leur la parole.
Bonjour, pour cette thématique, nous avons choisi de vous parler de la littérature d'aujourd'hui. Nous sommes allés rencontrer élèves et personnels du lycée Horticole de Blois pour les questionner sur leur rapport à la lecture.
Bonjour. Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis assistante d'éducation.
Est-ce que vous pourriez nous donner à peu près votre tranche d'âge ?
J'ai plus, un peu plus de la vingtaine.
D'accord. On voulait vous demander si vous lisez.
Oui, c'est très rare.
Est-ce que vous savez à peu près quel genre de littérature vous lisez ou ça, c'est varié ?
Varié.
Ok. Pourquoi vous avez commencé à lire ou pourquoi vous allez vous dire bah, « Tiens, je vais lire » ou « Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous lisez ?»
Qu'est-ce que ça apporte ? Je trouve que ça aide pour l'imagination, notamment. Et savoir lire aussi, je trouve que c'est pour écrire. Ça sert à notamment écrire certains mots.
Est-ce qu'il y a un livre dans votre vie qui vous a marqué ?
Non, pas spécialement.
Bonjour, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ?
Je suis élève de première TCVA au lycée Horticole.
Et vous pouvez me dire votre âge ?
J'ai 17 ans.
Très bien. Est-ce que vous lisiez ? Vous lisez ?
Oui, je lis beaucoup chez moi.
Vous lisez quel genre de livres ?
Bah, ça dépend, mais j'aime beaucoup les romans policiers.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire ?
Comme je lis depuis ma naissance, j'ai jamais arrêté, donc voilà.
Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué ?
Oui, c'est le roman policier 7 lettres.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je suis élève en première TCVA au lycée Horticole.
Je peux vous demander votre âge ?
Oui, j'ai 17 ans.
Est-ce que vous lisez ?
Oui, je lis beaucoup.
Quel genre de lecture, enfin quel genre de livre vous lisez ?
Moi, ça va être principalement de la romance et quelques romans policiers, mais quand même principalement de la romance.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire ?
Quand j'étais petite, j'ai toujours aimé lire, mais avec le temps, ça s'est un peu éteint avec l'arrivée de l'adolescence, etc. Ma mère était bibliothécaire pendant un certain temps. Donc j'ai quand même toujours été plongée dans l'univers des livres. Et j'étais sur les réseaux sociaux et il y a eu une tendance qui est arrivée sur TikTok, le BookTok du coup. Et en plus je voyais ça, plus ça m'a redonné l'envie d'acheter des livres. Du coup j'ai commencé à acheter un livre et après bah, je me suis pas arrêtée. Et maintenant j'ai une bibliothèque avec un SMIC à l'intérieur. Donc du coup bah voilà. Et puis maintenant bah, je lis tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué ?
Je sais pas si je pense qu'il m'a marqué, mais en tout cas mon livre préféré c'est Lagerstone, donc c'est une romance. Sinon après je pense que plein de livres dans mon enfance m'ont marqué, mais j'aurais pas les titres précis quoi.
D'accord, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous voulez vous demander ce que vous faites dans la vie et votre tranche d'âge.
Alors je suis infirmière scolaire au lycée Horticole de Blois et j'ai 46 ans.
Est-ce que vous lisez dans la vie ?
Oui, je lis beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive quand même de temps en temps de lire.
Est-ce que vous savez quel genre littéraire vous préférez ou vous lisez le plus ou...
Alors, ce que je lis le plus, on va dire, ça va être plus des BD documentaires ou... Comment ça s'appelle ? Des BD sur des sujets d'actualité, autour de la santé, souvent.
Est-ce que c'est en lien avec votre métier ? Peut-être que vous lisez ce genre de choses ?
Oui, le plus souvent. Alors, soit c'est des BD, soit après, ça va être des petits bouquins informatifs autour de la santé, la sexualité, la violence faite aux femmes, le consentement. Voilà, ce sont des sujets que j'aime particulièrement lire.
Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui vous a donné envie de lire ou vous avez toujours eu envie de lire ? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte de la lecture ?
En fait, le métier est très vaste et en tant qu'infirmière, en fait, on n'apprend pas tout dans sa formation. Donc, quand je me suis retrouvée au lycée, il y a plein de sujets que je ne connaissais pas et comme j'étais intéressée par beaucoup de sujets autour de la santé, l'éducation à la santé, il a fallu en fait que j'apprenne et à travers les livres, je trouve qu'il y a de très bons témoignages et très bons bouquins qui sont faits pour pouvoir apprendre et s'enrichir.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué ou vous avez un livre préféré, des choses comme ça ?
J'en ai un en tête qu'on doit trouver au CDI d'ailleurs du lycée qui s'appelle Podome. C'est autour du changement de peau, du transgenre, et c'est fait sous forme de BD. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, en fait, c'est une femme qui veut se marier et qui aimerait bien savoir ce que son mari fait la journée, parce qu'elle, elle reste à la maison. Donc, elle va se faire faire une peau d'homme. Et donc, elle va rentrer dans cette peau d'homme et elle va essayer de rentrer en relation avec son mari pour voir un petit peu ce qu'il fait au quotidien. Donc, je trouve ça très original et très d'actualité.
Bonjour.
Bonjour.
Vous faites quoi comme métier ?
Je suis conseiller principal d'éducation.
Vous avez quel âge ?
J'ai 51 ans.
Vous lisez ?
Ah oui, j'adore lire, ouais.
Quel genre de livre vous lisez ?
Alors, je lis des romans, je lis des essais. Alors, des essais, c'est des ouvrages qui permettent de réfléchir, on va dire. C'est des points de vue sur des questions... J'aime pas le terme intellectuel, mais en tout cas sur qui agite la pensée. Des ouvrages parfois autour des sciences de l'éducation, de la sociologie, de la psychologie. Je lis des livres de théâtre, parce que je fais aussi du théâtre. Des BD. Il m'arrive aussi de lire des médias numériques. Donc, je suis sorti des réseaux sociaux, parce que ça me, c'est une question de point de vue. Par contre, sur Internet, il y a des chouettes endroits d'information aussi, libres. Quand je dis libres, ça veut dire qu'il faut vérifier, mais qui sont tenus par des journalistes, qui eux-mêmes ne sont pas tenus par des grands groupes économiques, qui du coup détiennent une certaine... en tout cas, vont orienter parfois une politique éditoriale, qui va être un peu à charge ou à décharge. Donc moi, j'aime bien l'idée qu'un journaliste doit être libre... pour examiner des faits. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire ?
Au départ, c'est ça, Chloé ? Au départ, je crois que c'est un prof, c'est un bouquin. Il y en a souvent qu'un, pour démarrer en tout cas. Je me suis cogné les récitations quand j'étais petit, évidemment, en école primaire. Au collège, c'est venu au collège, il y a un prof de français qui ne nous a pas amené sur Molière, enfin des auteurs classiques, classiques qui me parlaient peut-être un peu moins, mais que j'ai lu aussi, hein, tu vois, j'ai lu Britannicus de Racine, le Cid, ce sont des choses qui m'ont tenu, puisque j'ai appris des choses de ça, enfin j'ai appris des répliques, mais j'ai adoré lire un bouquin qui s'appelait L'os de Dionysos. C'est un bouquin contemporain. Ça parlait du monde que je connaissais avec mes yeux d'enfant de 12-13 ans. Et alors ça a libéré des trucs. C'est ouf. Et du coup, je me suis rendu compte que la littérature, c'était pas uniquement ce qu'on apprenait à l'école, mais qu'elle était multiple et que selon les périodes de la vie, on va pouvoir trouver des bouquins qui correspondent à notre mood, à nos questionnements, à nos envies de romantisme, nos envies d'ironie, nos envies de rire. Et surtout, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, en fait, je suis le seul maître à bord, hormis évidemment l'écrivain ou l'écrivaine. Par contre, c'est dans ma tête que ça se passe. Et je déteste, par exemple, quand j'ai aimé un bouquin, c'est voir l'adaptation sur un écran. Ça ne correspond jamais au théâtre que je me suis fait dans ma tête. Je suis la plupart du temps très déçu. Voilà.
Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué ?
J'en ai plein. Un livre y a un bouquin qui m'a beaucoup touché à une période, de Christian Bobin, qui s'appelle La plus que vive, que j'ai dû lire quand j'avais une vingtaine d'années, qui était d'une beauté incroyable, qui parlait d'amour, de romantisme. Ça résonnait tellement dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé L'écume des jours de Boris Vian. J'ai beaucoup aimé la littérature de Romain Gary et j'aime beaucoup aussi participer au prix Emmanuel Robles, qui est un prix blésois. Et dans ce travers-là, enfin c'est pas un travers, au contraire, dans ces rencontres littéraires, j'ai lu un bouquin qui m'a bouleversé. Je me souviens pas du titre, je suis obligé à chaque fois de le chercher. Je crois que c'est Tatiana Arfel. C'était absolument prodigieux comme écriture et ça m'a transporté. Après, il y a des bouquins sur le la migration dans le cadre du Robles que j'avais lu, qui n'avait pas été retenu pour faire partie des lauréats, enfin en tout cas les derniers finalistes, mais j'avais participé à un autre projet et ça m'avait bouleversé. Il y a tellement de trucs, quoi. Enfin, c'est monstrueux.
Merci.
Ah bah, merci à vous, avec plaisir.
On retient de ce micro-trottoir que la lecture n'a pas d'âge. Chaque personne peut trouver le livre qui lui convient. Avec les livres, on peut apprendre, se divertir ou encore s'en servir d'échappatoire à notre propre vie. On peut vivre beaucoup de choses grâce à la lecture, que ce soit en termes d'émotions ou en termes d'aventure. On en apprend plus sur nous-mêmes et on a toujours de nouvelles choses à imaginer.
Revenons sur votre micro-trottoir. Nous avons pu entendre Léonie et son ressenti pour la lecture. Et toi, Chloé, est-ce que tu aimes lire ?
Oui, de temps en temps, je lis. Je lis ce que Léonie me conseille, mais je préfère dessiner. C'est plus ce que je fais, quoi.
D'accord, merci à votre duo de nous avoir fait redécouvrir la littérature de notre décennie.
Découvrons ensemble maintenant un nouveau chanteur américain du nom de Bason Bone et sa chanson populaire auprès des jeunes, Beautiful Things.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Je tiens à remercier Marie qui travaille dans l'ombre mais qui grâce à elle se trouve un bon fonctionnement technique et qui a créé le jingle en tout début d'émission. Écoutons-le.
Auditeur, auditrice.
Aujourd'hui, émission en direct depuis le lycée horticole de Blois.
Avec la classe de TCVA.
Au programme La vie au lycée, littérature et l'environnement.
Écoutez-nous sur le 91.1.
Il est temps de vous présenter notre dernière partie et les thématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur, la journée du développement durable et le bien-être animal.
Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Valérie Rintot, donc je suis la proviseure du lycée horticole de Blois.
Comment est-on arrivé à réaliser une journée du développement durable au sein du lycée ?
Alors, ça s'est trouvé un petit peu par hasard, à la demande en fait de certains enseignants qui ont souhaité pouvoir sensibiliser à l'occasion d'une journée autour de la protection de l'environnement, autour de l'éco-citoyenneté, nos jeunes lycéens, donc qui ont entre 15 et 18 ans en moyenne, de pouvoir les sensibiliser sur les gestes du quotidien autour du développement durable.
D'accord. Et quel est l'objectif de cette journée ?
Alors l'objectif reste en fait de pouvoir découvrir des gestes, de pouvoir découvrir des pratiques, mais aussi de pouvoir échanger à travers du débat, à travers des questions, des questionnements sur les gestes de demain, d'aujourd'hui j'ai envie de dire, et de demain, autour de la protection de l'environnement, en allant de comment on gère nos poubelles, comment on peut recycler nos déchets, comment on peut les composter, mais aussi comment on peut protéger la biodiversité à travers du débat, à travers du théâtre forum, à travers des interventions de professionnels ou d'associations qui peuvent permettre à chacun de pouvoir entrer dans ces démarches d'éco-citoyenneté au quotidien. Vous le savez tous, aujourd'hui, on doit recycler, trier nos poubelles, on doit composter nos déchets compostables, et c'est à travers toutes ces décisions politiques qui ont un intérêt pour le citoyen, qui nous semble important que chaque jeune puisse s'intégrer dans ces démarches.
Et pour finir, qu'est-ce qui a été mis en place autour de cette journée ?
Alors aujourd'hui, on a eu quelques difficultés pour mettre en place correctement la journée. Beaucoup d'intervenants qui n'ont pas pu nous rejoindre. La journée se tient notamment, et je tiens à les remercier grâce aux apprentis de première du CFA qui ont organisé différentes animations autour notamment de la protection du hérisson, autour des déchets comme les mégots de cigarettes ou le tri des poubelles. Mais on a aussi d'autres élèves comme les secondes en vente en animalerie qui exposent auprès de leurs camarades un travail qu'ils ont réalisé autour de la poule au jardin, quel est son intérêt pour le particulier notamment. Et puis on a également un enseignant, monsieur Vial, qui enseigne la biologie et l'animalerie, qui a créé une animation autour de la fresque du climat, de façon en fait à avoir des choses qui soient très différentes. Et puis on a une petite troupe qui fait un théâtre forum autour justement des gestes éco-citoyens toute la journée, avec des petits groupes de 50 élèves et apprentis environ.
D'ailleurs notre classe on va les rencontrer cet après-midi.
Vous allez d'ailleurs les rencontrer cet après-midi, effectivement. Ça permettra de compléter un petit peu tout ce que vous aurez pu voir et entendre après votre émission radio. En tout cas, je tiens à vous féliciter pour votre travail. Très bon travail.
Merci.
Bravo à vous.
Eh ben, nous, on tient à vous remercier pour votre participation et votre venue dans notre émission.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci.
À vous aussi.
Et pour commencer notre nouvelle thématique, faisons place au reportage de Thierry et Rachel sur le réfectoire de notre établissement. Retrouvons-nous dans les coulisses de la cuisine pour en apprendre plus sur ce qui se trouve dans nos assiettes.
Un endroit de partage en collectivité. Écoutons maintenant deux élèves donnant leur avis.
Bonjour, je m'appelle Noah Sanson, élève de première TCVA.
Votre avis personnel sur la cantine du lycée Horticole ?
Pour moi, la cantine du lycée nous fournit de bons produits à manger, des produits locaux et de bonne qualité. La nourriture est bonne et le cuisinier cuisine plutôt bien.
Saviez-vous d'où viennent les produits ?
Oui, nous savons d'où proviennent nos produits, car quand on va au self, il y a marqué d'où les produits proviennent, de différentes fermes, endroits ou magasins à proximité du lycée.
Que proposeriez-vous à améliorer ?
Pour moi, la cantine me convient très bien. Et les choses qui seraient peut-être plus à améliorer seraient plus pour le repas du soir, améliorer la nourriture et faire des choses simples.
Bonjour, je m'appelle Marc-Henley François, je suis en première TCVUJ.
Votre avis personnel sur la cantine du lycée Horticole ?
Je trouve personnellement qu'ils cuisinent plutôt bien, c'est bon. Il y a des jours c'est masterclass, il y a des jours c'est un peu moins, mais on ne peut pas être parfait.
Saviez-vous d'où viennent les produits ?
Je sais pas vraiment du tout d'où ça vient, mais je pense que ça doit venir un petit peu du réseau du lycée avec les autres de Montoire et de Vendôme. Sinon, après...
Que proposeriez-vous à améliorer ?
Je proposerais d'améliorer tout ce qui est niveau viande, les pâtes, le riz. Le riz, il est pas trop cuit, je trouve, mais après, ça, c'est mon avis. Hein. et les pâtes un peu plus salées dès le départ, parce que si on oublie le sel et qu'on prend notre nourriture et qu'on va à table, on se prend vite fait une claque. Sinon, la viande, bah, des fois, c'est bon. Il y a des sauces qu'ils font qui sont très bonnes. Des fois, c'est pas ouf. Et un peu plus de cordon bleu, si les moyens le permettent au lycée, ce serait vraiment pas mal.
Nous avons interviewé une AUD présente dans l'établissement depuis plus de 2 ans.
Votre avis personnel sur la cantine du lycée Horticole ?
Eh bien, je vais vous décevoir. Parce qu'en début d'année, oui, je mangeais au self. Enfin, pardon, au restaurant scolaire. Et que maintenant, je ramène ma propre nourriture que je fais soigneusement à la maison afin de manger un peu plus équilibré. Je sais que c'est beaucoup de produits qui viennent localement. Enfin, c'est pas très français, mais bon. C'est-à-dire fait par aux serres ou dans les serres qui sont environnantes. Après, j'en sais pas plus que ça.
Que proposeriez-vous pour améliorer ?
Que peut-être déjà que le soir, ça soit un peu plus équilibré. On mange beaucoup, je trouve, tout ce qui est pommes de terre, pâtes, riz. Que notamment les légumes manquent peut-être un peu de saveur, dans le sens où ça a le même goût. Il manquerait un peu plus d'épices ou des épices différentes.
Approchons-nous de Khadija, une cuisinière qui se trouve au cœur de ce sujet.
Alors moi, c'est Khadija Mifta, j'ai 60 ans et ça fait 36 ans que je suis dans l'établissement.
Quel diplôme possédez-vous ?
Je n'ai pas passé de diplôme pour être cuisinière, j'ai fait des formations tout au long de ma carrière. Avec l'ancienneté, je suis venue il y a 36 ans de ça. 36 ans, il n'y avait pas de diplôme à l'époque quand on voulait faire la cuisine, il n'y avait pas de diplôme. On était recruté en tant qu'agent. Et petit à petit, on fait de formation avec les années à venir. Voilà.
Quels sont vos horaires de travail ?
Mes horaires de travail, ça dépend. Comme on est deux cuisiniers, il y a un cuisinier du matin et un cuisinier du soir. Et moi, je suis du soir. En tant que cuisinier, on commence à 11h15, on finit à 8h15.
Aimez-vous votre métier ?
J'adore mon métier. C'est une passion pour moi, la cuisine.
Avez-vous pratiqué d'autres métiers auparavant ?
J'ai fait plein de choses avant, mais j'ai commencé à 18 ans. J'ai commencé, je faisais de l'intérim, je travaillais en usine. J'ai travaillé en vendange. Je faisais beaucoup de choses. Hein, j'apprenais la mécanique.
Vos points positifs et négatifs de votre métier ?
Positif, c'est qu'on est en contact avec nos élèves. C'est comme nos enfants. Hein. C'est comme si j'en grandis avec eux. Et puis le contraire, qu'est-ce que je veux dire ? Moi, le problème de ce métier-là, c'est qu'on est toujours debout. Et c'est le problème des jambes. On empathie par rapport à la santé. C'est plutôt les jambes qui prennent un coup, oui.
Pour en savoir plus, nous accueillons le chef en direct sur le plateau. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Didier Novak, je suis chef de cuisine au lycée Horticole de Blois. Je suis donc depuis 22 ans au lycée. Donc les élèves, j'en ai vu passer quelques-uns. On les voit grandir. Voilà.
Présentez-nous votre métier en quelques mots.
Ah, mon métier, je dirais pas que c'est de l'art, mais c'est travailler un produit brut pour en faire quelque chose en excellence. C'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais j'en prends note, mais on essaye de faire des légumes frais avec des assaisonnements différents. Donc après, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, mais je suis là tous les jours. Donc s'il y a quoi que ce soit, il y a toujours moyen de m'en parler. Je suis ouvert à toute information et à toute suggestion.
Avez-vous pratiqué d'autres métiers auparavant ?
Ah non, hélas. Hélas, j'ai été cuisinier petit. Et jusqu'à l'aube de ma future vie, on va dire.
Quel diplôme possédez-vous ?
Ah, j'ai un CAP BEP de cuisine que j'ai fait en apprentissage il y a très très longtemps. Donc l'apprentissage il y a très longtemps était un apprentissage assez dur parce que dans le privé, il n'y a pas d'horaire. On sait à quelle heure qu'on commence, on ne sait pas à quelle heure qu'on finit. Et c'est là qu'on apprend la sueur et les qualités de notre métier.
Quels critères prenez-vous en compte pour sélectionner vos produits ?
Alors, les critères, c'est déjà un producteur local. Ensuite, c'est la qualité du produit. C'est-à-dire que moi, quand je sélectionne un producteur local, je prends du temps sur mon temps personnel. Je vais le visiter. je vais discuter. Je fais souvent un plan de culture avec lui. Je vois avec lui ce que je vais avoir sur l'année. Je fais la même chose avec les serres du lycée. On fait un plan de culture et on voit la qualité et comment il travaille, le matériel, s'il a tout ce qu'il faut et s'il nous fait un produit comme nous on le souhaite, sain. On ne demande pas un produit beau, parce que le produit beau n'est pas forcément un produit mauvais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du produit. Et actuellement, j'ai dressé un petit réseau et maintenant, c'est les fournisseurs, les gens du bassin qui viennent me voir et qui me font des propositions de produits parce qu'ils savent que je vais travailler leurs produits.
D'où proviennent vos produits ?
Alors, vraiment du bassin. C'est-à-dire qu'au plus loin, c'est un petit village de Courmemain qui est en Sologne. Et sinon, c'est Cheverny, Blois, Cheverny aussi. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont sur Cheverny, Courmemain, Blois. Et on essaye vraiment Mont-Préchambord pour tout ce qui va être pommes, poires. Et on est vraiment sur le secteur. Et on se fixe vraiment sur le produit local et le produit bio. En viande, nous travaillons de la viande labellisée bio sur un abattoir qui est spécialisé sur la viande bio et de label. C'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas d'incertitude sur la qualité du produit. L'abattoir ne fait que ces produits-là.
Comment planifiez-vous vos menus ?
Alors déjà, on travaille sur un plan alimentaire. C'est-à-dire que tel type de produit doit être travaillé sur un plan alimentaire. Voilà, c'est une échelle qu'on nous donne et on nous dit voilà, des plats avec de la viande non hachée, c'est 5-6 fois dans la série de 20 jours. Et chaque catégorie de plats comme ça est nonifiée et répertoriée. Pardon, excusez-moi. Et donc, ça nous fait une échelle. Et sur cette échelle, eh ben, on doit placer tous nos plats. Et pour un équilibre alimentaire.
Qu'est-ce qui vous différencie des autres établissements de l'agrocampus ?
Ce qui nous différencie, on ne peut pas vraiment nous différencier. On a un EPL. On a un même directeur et on a une même directive. Donc après, c'est le directeur du site qui impulse chaque établissement. Moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui est à mon écoute et qui est dans le positif pour travailler sur la loi Egalim. Parce qu'on a aussi la loi Egalim, il ne faut pas l'oublier. C'est une loi qui nous oblige à avoir minimum 20% de produits bio, des produits locaux et 50% de produits labellisés. Nous, le lycée horticole, pour l'instant, eh ben, nous sommes au 50% aujourd'hui. Même, nous sommes aux 50% de produits labellisés, nous sommes à 44% de produits bio et à plus de 34% de produits locaux, non bio.
Que organisez-vous pour la journée du développement durable ?
Alors, pour notre journée de développement durable, nous faisons une journée sans déchets. C'est-à-dire que tout ce que vous allez trouver, il n'y aura pas d'emballage, il n'y aura rien et tout doit être mangé. Donc, pour le menu d'aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose que vous allez sûrement adorer. On va commencer par un petit buffet avec des crudités. Ensuite, on vous a préparé un petit hamburger sur un petit pain bio, soit un végé, soit un poisson, soit de la viande. On a fait les trois propositions avec, bien sûr, des petits légumes, de la salade, mais des frites. Donc, normalement, nos assiettes devraient être vides. Vous avez du fromage à la coupe, comme tous les midis. Et en dessert, aujourd'hui, exceptionnellement, mais j'espère qu'on va le faire pérennisement, on va pérenniser la chose. C'est-à-dire que je vous ai pris du fromage, non, pas du fromage, pardon, du yaourt local, bio, que je vous ai mis, que j'ai sucré et que je vous ai mis en petit ramequin. Et je vous ai fait une petite ananas-banane au sirop.
Comment limitez-vous vos déchets ?
Eh ben, je limite mes déchets en travaillant beaucoup de produits frais. Donc les produits frais, il y a de l'épluchure, mais ce n'est pas du déchet, c'est du déchet valorisé. C'est-à-dire que ça va au compost ou ça va aux animaux. Ensuite, le déchet que vous produisez, c'est vous qui le produisez. C'est-à-dire que c'est ce que vous ne mangez pas, c'est ce que vous allez jeter. Vous savez bien qu'on fait une valorisation des déchets, mais on fait un tri des déchets. Donc on a tout ce qui va être recyclable, tout ce qui va être compostable et tout ce qui va être déchet. On a deux autres choses, le pain et l'eau. C'est-à-dire que le pain, c'est la vie, donc je vous demande de faire attention à la consommation de pain. Vous mangez ce que vous prenez, ne jetez pas. On a trouvé hier à l'autopsie des poubelles des morceaux qui n'étaient pas entamés, donc ça, c'est des morceaux gâchés. De l'eau, on a retrouvé une trentaine de litres hier, donc c'est-à-dire que c'est des brocs qui ont été tirés et qui ont été jetés. Donc l'eau, c'est la vie, le pain, c'est la vie.
Pour terminer, aimez-vous votre métier ?
Je pense que mon métier, c'est plus que mon métier, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur et dans l'âme. Je pense que j'essaie de le faire ressentir et j'aime vraiment ce que je fais.
Merci beaucoup.
De rien.
Laissons place à Madame Daprato qui veut témoigner.
Je voulais vous remercier pour l'excellente cuisine que vous faites. Voilà, pour avoir circulé dans d'autres établissements, avoir goûté à d'autres cantines, je peux vous assurer qu'ici, c'est vraiment très très bon. On a toujours le choix à midi entre de la viande, du poisson ou plutôt un plat végétarien. Voilà, donc rien que voilà, cette possibilité. Des aliments qui sont produits ici par les élèves la majorité du temps. Enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable. C'est excellent, excellemment cuisiné. Vous parliez de l'esthétique des produits et de privilégier plutôt la qualité à l'esthétique. Les pommes, par exemple, c'est vrai, elles ont un aspect, c'est des pommes de la campagne, des vraies pommes, mais alors quelle saveur, quoi. Donc vraiment, n'arrêtez pas, enfin continuez, merci parce que c'est quand même très important pour nous de bien manger, de manger en plus des plats qui sont non seulement sur des circuits courts ou qui sont bio, mais qui sont très très bien cuisinés. Donc voilà, puis vous avez toujours le sourire. Enfin, merci beaucoup.
Effectivement, on est dans un établissement qui est reconnu pour sa cuisine et grâce à l'équipe restauration, on est labellisé établissement bio engagé depuis peu, depuis un an maintenant. On progresse toujours, enfin en tout cas l'équipe restauration et notamment M. Novak progresse pour apporter une alimentation de qualité, une alimentation saine à tous nos usagers dans l'établissement. Certes, vous l'avez précisé M. Novak, les goûts et les couleurs, il y en a partout dans la nature et ça ne peut pas toujours convenir à tous. Mais en tout cas, on est sur une restauration collective qui, à mon sens, est d'excellence. Pour un établissement d'enseignement agricole, on se doit en fait de montrer une bonne image de notre restauration, une bonne valorisation des produits issus de l'agriculture. Et très honnêtement, M. Novak fait son travail à merveille tout en gérant son budget. Bravo.
Merci à Madame Rinto, Madame Daprato et Didier. Et merci les filles, il n'y a décidément plus de secrets pour nous dans ce lycée.
Pour continuer cette journée du développement durable, comment ne pas parler du bien-être animal ? Tout de suite, une intervention de Mélissa, Chloé et Lydie.
Bonjour, nous sommes en classe de première au lycée du Horticole de Blois. Nous allons interviewer une vendeuse de l'animalerie Truffaut de Saint-Gervais-la-Forêt.
Bonjour, Océane, vendeuse en animalerie, Truffaut. Bonjour, on va vous poser quelques questions. Comment organisez-vous l'arrivée des animaux ?
Alors, on a plusieurs sortes d'arrivages, donc ça dépend des animaux. Si ce sont les poissons, donc ils arrivent en sachet, on les fait acclimater plus longtemps que quand on les met en aquarium, pour que ça se fasse tout en douceur. Et après les avoir lâchés dans l'aquarium, on attend une bonne demi-journée, histoire qu'ils ne fassent pas plusieurs acclimatations d'un coup en allant chez les clients. Pour les rongeurs, ils vont attendre 3 jours, histoire de vérifier que le transport se soit bien passé, qu'il n'y ait pas d'anomalie chez l'animal, que tout soit bien, qu'il n'a pas besoin de soins. Chez certains, on va donner une vitamine en plus pour continuer le traitement qui a été fait à l'élevage.
Avez-vous beaucoup de visites du vétérinaire ?
On a une visite vétérinaire, excusez-moi, tous les 2-3 mois.
Qu'est-ce qui peut être amélioré dans le bien-être animal pour vous ?
Alors, pour le bien-être animal, ça serait plus la conscience des clients qui achètent un animal, qu'il aille, que ça soit du plus petit poisson jusqu'au perroquet. Beaucoup de personnes vont acheter un poisson en guise de décoration, alors que celui-ci ne va pas être bien fait. Ils doivent être dans des gros aquariums, les clients
ne font pas forcément attention à ce qu'ils achètent. Ils doivent justement bien écouter les conseils, ce qu'ils ne font pas tout le temps. Les rongeurs, c'est pareil, ils sont souvent mis dans des petites cages, alors qu'ils doivent être dans des beaucoup plus grandes cages, avoir beaucoup plus d'attention. Ce qu'ils ne font pas, on a souvent beaucoup de maltraitance chez les clients à cause de ça, hein. Ils ne font pas forcément attention à ce qu'ils font. Ça serait plus du coup un manque de conscience et d'information chez les clients.
D'accord, merci pour votre intervention, ce sera tout, c'est fini.
Nous avons vu qu'ils mettaient en place des choses pour le bien-être animal lors de l'arrivée des animaux et que le vétérinaire vient souvent dans l'année. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée. Au revoir.
Merci à Chloé, Mélissa et Lydie pour cette interview enrichissante sur le bien-être animal.
On va se laisser le temps de revenir en enfance avec la magie de Disney et l'histoire de la vie, musique tirée du célèbre film Le Roi Lion.
Du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour, c'est l'histoire de la vie.
Tenons à vous rappeler que tous nos enregistrements et le montage ont été réalisés par les élèves de première TCVA. Et pour clôturer cette émission, nous continuons sur le bien-être animal et une chronique de Kylian, Camille et Alison qui ont rencontré Madame Guillouche.
Bonjour à tous. Durant cette journée du développement durable, notre lycée propose plusieurs activités, dont une qui porte sur les poules. Nous allons vous présenter cette activité en lien avec notre thème. Tout d'abord, nous avons interviewé notre professeure de zootechnie, Madame Guillouche, qui présente son activité menée avec ses élèves de seconde CVPA, conseiller vente en produits animalerie.
Bonjour Madame Guillouche, pouvez-vous nous présenter l'activité présentée par vos élèves de seconde ?
Oui, bonjour Camille. Donc les élèves de seconde ont travaillé ces dernières semaines sur les poules. Ils ont eu à préparer des affiches portant sur les différentes races de poules et leurs caractéristiques, comment les héberger, comment les nourrir, comment les protéger des prédateurs ou des maladies. Et également, quel est l'intérêt pour les particuliers de posséder des poules à la maison ?
Donc vous allez bientôt accueillir des poules dans la volière du lycée ?
Oui, c'est ça.
Qu'allez-vous mettre en place pour le bien-être de ces animaux ?
Donc, dans un premier temps, on est en train de refaire tous les grillages. On va installer également une porte automatique pour que les poules puissent sortir librement dans les pelouses et profiter des vers de terre et différents insectes qu'il y a sur le site. On va installer également un système d'ombrage pour l'été et de récupération d'eau de pluie pour pouvoir avoir de l'eau là-bas sur place.
Que pensez-vous du bien-être animal en général en France aujourd'hui ?
Alors le bien-être animal en France a eu du mal à arriver, mais il est en train de se développer actuellement. Les citoyens français sont de plus en plus sensibles à la maltraitance des animaux et au bien-être de leurs animaux. Au niveau de la loi, les législateurs ont mis en place ces dernières années différentes lois pour protéger les animaux contre la maltraitance. Et maintenant, on a la possibilité de condamner les personnes qui font preuve de cruauté envers les animaux, ce qui n'était pas le cas avant.
En effet, que pensez-vous du bien-être animal dans les élevages intensifs en France ?
Alors, les élevages intensifs en France ont été créés pour produire de la viande. Ils produisent beaucoup d'animaux, mais pas forcément dans des bonnes conditions. Ils sont protégés, certes, ils sont nourris, certes, mais on ne tient pas forcément compte de l'ambiance sonore, du nombre d'animaux par surface ou bien des conditions sanitaires. Et moi, je ne trouve pas ça du tout normal. En plus, ça ne produit pas du tout de la bonne viande, donc il faudrait éviter d'en produire.
Merci à vous, Madame Guillouche, de votre participation.
De rien, merci et bonne journée.
Merci, vous aussi.
Maintenant, nous aimerions vous faire part de quelques recherches que nous avons faites sur le bien-être animal en France et les gens qui le défendent. En 2003, il y a eu la création L214, association qui s'introduit illégalement dans les élevages tout en veillant au bien-être de nos animaux.
Son but est d'interdire d'exercer de mauvais traitements envers les animaux, qu'ils soient domestiques, sauvages ou d'élevage. Par exemple, il y a deux élevages de porcs du Morbihan qui ont été suspendus après une plainte de l'association L214 pour mauvais traitements. En Haute-Marne, il y a eu une enquête pour mauvais traitements dans un élevage bovin après la découverte d'animaux morts. L'association L214 a porté plainte et a réclamé la fermeture immédiate d'un élevage de lapins en Bretagne. D'autres exemples comme des poules d'élevage intensif n'ayant pas d'accès à l'extérieur, elles étaient entassées, certaines même agonisées, et un élevage de teckels qui a également été dénoncé pour mauvais traitement.
Se posent également des questions sur les conditions de vie des animaux de compagnie. Par exemple, jusqu'où on pousse la sélection, car on sait que le croisement entre différentes races a souvent été un problème. Nous avons ici l'exemple du charpei, qui est une espèce fragilisée par la sélection génétique. Nous avons l'exemple du dog allemand, qui, à cause d'une sélection trop poussée, a causé des problèmes de respiration à cause de leur nez plat. Cela ne concerne non seulement les chiens, mais aussi d'autres espèces et même jusqu'aux poissons, puisqu'une variété de poissons japonais a été victime de la suppression de sa nageoire dorsale qui cause un déséquilibre dans sa nage.
Le bien-être animal est un sujet qui intéresse de plus en plus. Les citoyens sont de plus en plus sensibles au respect de leur environnement, à l'origine de leur alimentation et aux soins apportés aux animaux. Pour respecter les attentes de la population, plusieurs textes de loi ont été créés. L'arrêté du 8 octobre 2022 donne les conditions de détention des espèces animales non domestiques, reptiles, perroquets par exemple, par les particuliers et les professionnels. Décret numéro 2022-1012, octobre 2022, il traite de la protection des animaux contre la maltraitance et impose un délai de réflexion et un certificat d'engagement de connaissance aux acquéreurs de chiens, de chats, furets et lapins.
C'est justement pour cela que nous avons choisi cette filière, car ça nous permet d'acquérir des connaissances autour du monde animal et être sensibilisés au bien-être animal. On pourra ensuite à notre tour sensibiliser les futurs acquéreurs d'animaux pour éviter les abandons et la maltraitance.
Merci à vous trois pour cette chronique et à Madame Guillouche. Finissons notre émission avec un tube de Nekfeu qui nous laisse nous bercer sur ses paroles. On verra.
Merci et on se retrouve bientôt sur notre radio Studio Zef.
On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quelle ironie de mourir en position fœtale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Et je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens on y pense. On verra bien, l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien.
Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as bu, je te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Ça vit pas de projet à part mater les DVD piratés. Ah, on verra bien.
Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Plus on se rend flou et moins on voit clair. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue. Mon papa me croit pas mais ça te sent que le tabac froid. On se fait chier au taf, on attend les camps va. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien si bien on y pense. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien.
Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Il n'est pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans le même bateau, même ceux que l'on n'aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi à part le matin d'une perquise. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke j'ai le nez de krill.
Escrew, 995, on a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on a rien à foutre de rien.
Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma. Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien.